de baigner maintenant, et c'est pas toujours à travers des choses extraordinaires. Je crois que par exemple, ça peut être dans des choses tout à fait quotidiennes. C'est une qualité d'attention, de conscience, où je prends conscience de la conscience qui me rend conscient, où je prends conscience du souffle qui me fait respirer. En ce moment, par exemple, c'est vrai que c'est étonnant de ressentir d'où me vient le souffle, d'où vient l'inspire, et où va l'expire. En ce moment, où va notre expire? Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter cet espace où va notre expirer, où on va bientôt tous expirer, hein, puisque ça c'est ce qu'on partage tous. Hein, on inspire et on expire, et il y a un jour où on expire profondément, très profondément, et où on inspire peut-être pas dans cet espace-temps. D'où l'importance, avant de mourir, de faire l'expérience, je dirais, de ce qui ne meurt pas en nous. Et je crois que ça passe par cette pratique, bon, qu'on appelle la méditation, l'oraison, la contemplation, où on va écouter ce qu'il y a à la fin de l'expire. Hein, là, il y a un espace de silence, et de tranquillité en même temps. Hein. Encore une fois, vous sentez bien là, les mots manquent pour parler de ça, puisque c'est au-delà des mots, puisque c'est au-delà du temps. Et pourtant, n'importe qui peut faire l'expérience d'écouter qu'est-ce qu'il y a là à la fin de l'expire, prendre un temps de suspension. D'où nous vient la vie en ce moment et où est-ce qu'elle retourne? D'où nous vient la conscience en ce moment et où est-ce qu'elle retourne?
Qu'est-ce qui ne meurt pas en nous? Grande question, nous allons l'évoquer plus longuement avec vous dans quelques minutes. Jean-Yves Leloup, vous êtes notre invité, l'invité des dieux dans tout ça sur la première. Voici Vanessa Paradis, il y a, bel après-midi.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Il y a Vanessa Paradis sur la première. Nous profitons de l'été pour vous faire découvrir ou redécouvrir quelques grands moments de la saison écoulée dans Et Dieu dans tout ça. Ce dimanche, Jean-Yves Leloup.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Le pastafarisme, est-ce davantage qu'une parodie des religions? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes dans notre grand dictionnaire. Mais il nous faut d'abord encore parler de la mort avec vous. Jean-Yves Leloup, vous êtes notre invité ce dimanche. Vous êtes écrivain, philosophe, théologien et prêtre orthodoxe. Qu'est-ce que la mort? Vous allez entendre la réponse de l'un de vos amis que nous recevions ici même au début de l'année. C'est le violoncelliste Jean-Paul Decy. Écoutez.
C'est un passage. On pourrait dire c'est la naissance au ciel, comme le disent les orthodoxes. Je veux dire, c'est d'adhérer à l'idée que nous sommes connectés à plus grand que notre petite conscience intellectuelle.
Mais donc, pour vous, la vie ne s'arrête pas le jour du décès ?
Non. Non, non, absolument pas. Nous entrons dans une dimension plus accomplie de nous-mêmes, dans la lumière. Tous les témoignages des personnes qui reviennent sont concordants.
Personnes sont déjà revenues ?
Mais bien entendu, des dizaines de milliers qui témoignent tous. Il y a beaucoup de littérature scientifique maintenant sur ce qu'on appelle les morts imminentes, qu'on devrait appeler morts provisoires.
Et vous, justement, Jean-Yves Leloup, vous avez connu cette situation, vous avez connu la mort imminente, la mort provisoire, comme le dit Jean-Paul Decy. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ?
En quelques mots, oui. Ça se passait, donc j'avais 19 ans, hein. C'était un petit peu tôt pour mourir. Donc ça se passait à Istanbul, hein, et après avoir fait la route, comme beaucoup de jeunes à cette époque, c'est vrai que... avec la drogue, avec un certain nombre de nourriture un peu endommagée. Hein, dans le Bosphore, il n'y a pas que de l'eau de source. Mmh. Je me suis retrouvé donc dans un état de coma profond, dans un fossé. Et on m'a ramassé, donc on m'a fait à l'hôpital un électroencéphalogramme. Et donc, paraît-il qu'il était plat. Et donc, à un certain moment, on a voulu m'enterrer. Je me souviens de la petite boîte métallique qui était à mes côtés, et bon, ça, quelque chose en moi a remué, peut-être le gros orteil, je ne sais pas ce que l'on m'a dit à ce propos, mais bon, moi qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'à un certain moment, c'est des images un petit peu banales, c'est comme si l'oiseau sortait de sa cage, oui, comme si l'information qui donnait cohérence à mes atomes et mes molécules sortait, avait une vie indépendante, et puis comme si le vol sortait de l'oiseau, hein, comme si au-delà de l'information, il y avait justement ce grand espace, ce silence, cette lumière. Mais bon, ce sont des mots. Hein. Et c'est vrai que par rapport à beaucoup de témoignages là-dessus, donc qu'évoque Jean-Paul Decy, moi j'ai pas rencontré d'ange ni de... C'est sans doute lié à mon passé, à mon enfance athée, justement, hein, d'avoir été élevé dans un milieu sans religion, justement. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a là de quelque chose dont on ne peut pas parler, puisque c'est au-delà du cerveau, donc au-delà des mots, au-delà du langage. Hein, et pourtant, c'est réel. Hein, c'est. Là, je pense à après, quand je lirai chez Thomas d'Aquin, qui dit « Dieu, on ne sait pas ce qu'il est, on peut simplement dire qu'il est ». Donc, il y a de l'être qui est. Dieu n'existe pas, c'est pas une existence, puisque comme tout ce qui existe, à ce moment-là, il commencerait, il finirait, mais là, c'est l'être, la cause de toutes les existences, la source de toutes les existences. Donc là, il y a eu ce moment où je reviens dans... Le vol revient dans l'oiseau revient dans sa cage, hein, et donc moi, je reviens dans mon corps, avec toutes les limites et toutes les douleurs que vous pouvez imaginer à ce moment-là. Mmh. Mais c'est à partir de ce moment-là que je suis entré en quête, je dirais, qu'est-ce que c'est que cette réalité-là qui s'est ouverte à moi, hein. C'était pas la conscience de quelque chose, mais c'était de la pure conscience, on peut dire. C'était pas... Il n'y a pas d'objet. C'est pour ça que j'aime bien l'insaisissable. Hein. Il n'y a plus d'objet à saisir. Mais il y a l'espace qui contient tous les objets. Donc c'est vrai que une parole comme celle de Thérèse de Lisieux qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie hein, ». Avec la majuscule que vous avez soulignée tout à l'heure. Je crois que ça, c'est une expérience que j'ai faite. Et c'est vrai que, j'allais dire, c'est intéressant d'être mort une fois dans sa vie.
Et vous dites ça avec le sourire.
C'est-à-dire oui, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Mais alors, soyons sérieux, justement. C'est pas nécessaire hein, de mourir, de faire l'expérience d'un coma profond, de passer à travers tout ce que j'ai pu passer pour avoir cette sorte de certitude.
De certitude. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le fruit de votre imagination, par exemple? Question légitime.
Parce que justement, l'électroencéphalogramme était plat, donc il n'y avait plus beaucoup d'imagination ni de pensée. Et que quand je retourne dans la méditation, je trouve aussi des moments sans image, sans pensée, qui se rapprochent. je dirais, de ce pur silence, de cette pure conscience.
Avant de mourir, il nous faut découvrir ce qui ne meurt pas. Nous avons effleuré ce questionnement tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne meurt pas, alors, selon vous, Jean-Yves Leloup ?
Ce qui ne meurt pas, c'est justement cette conscience que je vais mourir. Ce qui ne meurt pas, c'est ce que je ne peux pas saisir. Ce qui ne meurt pas, c'est l'espace dans lequel nous sommes. C'est la lumière qu'on ne voit pas.
Qu'est-ce qui reste ?
Le cerveau séparé.
Qu'est-ce qui reste après la mort ?
Il reste la vie. La vie. Tout s'effondre sauf
la vie sans nous.
Continue. La vie sans moi. Sans la forme particulière que la vie a pris en moi. C'est-à-dire que la vie prend une forme particulière en moi, avec ce corps, avec ce paquet de mémoire, c'est ce code génétique, etc. Donc ça, c'est une forme particulière. Cette forme particulière, elle s'efface. Mais la vie elle-même qui a pris forme dans cette forme, continue. Elle était là avant moi. Elle était là avant votre naissance, avant la mienne. La vie était là, elle sera là après nous.
Et à la question « Où allons-nous ?», vous répondez quoi, Jean-Yves Leloup ?
Ben, on va vers une plus grande vie, une plus grande conscience, une plus grande lumière. On va là d'où on vient. Et c'est un retour à la source même de l'être qui nous a fait être. À la source de toutes les manifestations. On va vers le réel. On ne peut pas aller ailleurs que dans le réel. On n'en sort pas et on n'y entre pas. Le réel, il est là. Mais ce réel se manifeste à travers des réalités passagères et transitoires. Mais le réel lui-même, qui fait être toutes les réalités cosmiques, intellectuelles, affectives, toutes ces petites réalités, eh bien, elles passent, elles sont transitoires. Mais par contre, le réel lui-même, d'où naissent toutes ces manifestations, il demeure.
Merci. Merci Jean-Yves Leloup d'avoir été avec nous et d'avoir gardé le sourire tout au long de cette conversation. Les portes de la transfiguration et il n'y a qu'un seul Dieu, lequel, ce sont les titres de vos deux derniers livres. Merci à vous et belle journée.
Merci à vous aussi.
Et Dieu dans tout ça.
Sur la première.
Et il est temps d'ouvrir notre grand dictionnaire des philosophies et des religions. Aujourd'hui, comme promis, le mot pastafarisme. Bonjour Jean-Philippe Schreiber.
Bonjour.
Vous êtes membre du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité à l'ULB. Le pastafarisme, voilà une religion pas comme les autres.
Une religion pas comme les autres qui peut prêter à sourire, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'elle pose de bonnes questions, sans doute, sous des dehors assez rocambolesques, drôles et caricaturaux.
Qu'est-ce que c'est ?
Le pastafarisme, c'est vraiment l'archétype aujourd'hui de la religion parodique. C'est une contraction de deux termes, pasta et rastafari. Hein, ce qui a fait ce mot pastafarisme, c'est une religion, si j'ose dire, qui a été créée, en tout cas une contestation de la religion, qui a été créée par un physicien texan il y a de cela une douzaine d'années. Il voulait réagir contre le fait que dans un autre État américain, en Arkansas, les autorités éducatives avaient mis sur le même plan, pour l'enseignement de la biologie à l'école secondaire, la biologie traditionnelle, évolutionniste, darwinienne, dirions-nous, et puis la théorie créationniste qui, elle, est proprement religieuse. Et il s'en était offusqué, il a publié une lettre ouverte à cette administration éducative de l'État de l'Arkansas, et cette lettre a connu une diffusion extraordinaire sur Internet, et elle a été à la base d'une religion parodique qui a sa cohérence, qui est très drôle, hein, qui a son paradis et son enfer, qui a ses rituels, qui a ses attributs.
Quel type de rituel, par exemple ?
Alors, c'est bien sûr les nouilles qui sont consacrées, puisque c'est un monstre en spaghettis volant qui aurait créé l'humanité et le monde pendant une nuit d'ivresse. Un dieu particulier pendant une nuit d'ivresse. C'est pour ça, d'ailleurs, que le monde est imparfait, parce qu'il l'aurait créé pendant une nuit d'ivresse. Il a créé un paradis où il y a des volcans de bière et des usines de stripteaseurs et de stripteaseuses. Et puis, il y a un enfer qui s'oppose au paradis, qui est à peu près la même chose, sauf que la bière est éventée et que les stripteaseurs et les stripteaseuses ont des maladies sexuellement transmissibles. Alors, ça peut paraître très drôle aux yeux d'aucun, peut-être très peu drôle aux yeux d'autres, mais cette religion parodique pose, je crois, de vraies questions. Alors, ces vraies questions, quelles sont-elles ? C'est d'une part le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens ne se reconnaissent plus dans les religions traditionnelles et ressentent le besoin de marquer ce ressentiment, dirais-je, ou cet éloignement en appuyant des religions parodiques qu'ils trouvent très drôles et qui leur semblent être précisément l'antithèse de tout ce qu'ils ne reconnaissent plus dans les religions traditionnelles. Mmh. Ils rejettent les miracles, ils rejettent l'idée même de Dieu qui n'a jamais été prouvée.
Et donc ce sont des athées, les adeptes du pastafarisme ?
Alors, sont-ce des athées, peut-être ne se reconnaissent-ils pas comme tels, parce que finalement l'athéisme c'est aussi une manière de se positionner à l'égard de Dieu en le rejetant. Mmh. Eux simplement disent, bah, écoutez, vos religions, elles nous ont créé beaucoup de désagréments pendant plusieurs millénaires, elles nous ont créé beaucoup de violence, et nous préférons, quand on nous demande quelle est notre religion, et dans certains pays comme le Royaume-Uni, il faut dire dans l'ordre du recensement à quelle religion on appartient, et ben certains nombres disent, je suis pastafarien, ou je suis de la religion du Jedi. En Suède, ils vont dire, je suis de la religion du copie, c'est-à-dire de la photocopie. Ce sont des religions parodiques, mais qui ont cette vertu peut-être de dire qu'il y a différentes manières de manifester ses convictions. Mais je crois qu'il y a surtout deux vraies questions que cela pose, au-delà de la parodie, au-delà de la caricature. C'est d'abord le fait qu'il est très difficile de définir une religion. Et le pastafarisme nous aide à poser cette question sans avoir de réponse, c'est-à-dire qu'une religion, c'est impossible à définir. Et les autorités dans certains pays ont été bien embêtées lorsque des gens sont venus demander d'être reconnus comme pastafariens. Hein, on en a beaucoup ri, ils ont demandé à ce que leur photo d'identité ou de permis de conduire leur permette de porter leur couvre-chef, pastafarien, à savoir une passoire, puisque c'est la religion des pâtes. Et il est même des pays où on a poussé cette reconnaissance jusqu'à un tel point qu'on a permis à des pastafariens de se marier. Et pourquoi des pastafariens ne pourraient-ils pas se marier, alors que dans d'autres pays, il est possible de se marier uniquement devant le pasteur, le curé, le rabbin de sa propre religion. C'est donc là poser la question de savoir ce que c'est une religion, et c'est poser la question aussi qui est importante de nos jours, où notre paysage religieux se pluralise, c'est poser la question de savoir quelles sont les limites à la liberté religieuse. Est-ce que l'on peut reconnaître des droits, ou est-ce que l'on peut reconnaître des accommodements aux religions, oui ou non, un certain nombre de pays le font, et dès lors que l'on reconnaît un certain nombre d'accommodements, à qui le concède-t-on, uniquement aux religions traditionnelles ou aussi aux religions émergentes, et il y en a de plus en plus aujourd'hui.
Merci pour ces explications, Jean-Philippe Schreiber, et bonne journée à vous.
Bonne journée.
C'était Dieu dans tout ça, merci d'avoir été là. Sachez que ce numéro, déjà diffusé en juin dernier, est disponible quand vous le souhaitez sur notre plateforme Ovio. Bientôt 14h sur la première à suivre les infos et les classiques de l'été avec Nicolas Blanmont. Passez une belle après-midi et un bel été.
Dieu n'est pas la réponse à nos questions, il est la question à nos réponses.
La première, la Wallonie et Tour des sites organisation présente Armistice, le spectacle commémoratif du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre. Rendez-vous chaque soir du 3 au 19 août à Namur pour découvrir cette évocation historique en trois dimensions. Spectacle gratuit. Info, tourdesites.be. Avec le chocolat d'Arcy, l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT.
Il est 14h.